Je suis Benoît Ballet, le correspondant de BFM TV aux États-Unis. Le compte à rebours défile. Il prendra fin le 20 janvier. Ce jour-là, Joe Biden confiera les clés de la Maison-Blanche à son rival d'un temps, victorieux de l'élection présidentielle, Donald Trump. Une fin de mandat ternie par la défaite des démocrates, mais pas seulement. La décision de Joe Biden de gracier son fils a soulevé un tollé dans son propre camp. Aujourd'hui, on va donc avec Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, revenir sur les dernières semaines de Joe Biden, de l'élection présidentielle perdue jusqu'à aujourd'hui, et tenter d'analyser les faits et gestes de celui qui est toujours, quoi qu'on en pense, le président des États-Unis. Salut Thierry.
Salut Benoît.
On va donc parler aujourd'hui de cette dernière décision en date de Joe Biden qui ternit quand même, je pense qu'on peut le dire, considérablement la fin du mandat du président démocrate. On l'a appris tard dimanche ici, le président qui décide de gracier son fils Hunter Biden. Hunter Biden, on en avait parlé d'ailleurs dans ce podcast qui est visé par ouais. deux procès. Deux affaires contre lui, on reviendra sur les détails, mais voilà, une grâce présidentielle qui concerne les années de 2014 à 2024. Alors Hunter Biden, il n'a toujours pas été condamné, mais il ne pourra jamais l'être. On ne pourra rien lui reprocher sur ces 10 ans. Une décision pas inédite, mais quand même assez spectaculaire et inattendue, parce que Joe Biden avait à de nombreuses reprises expliqué que jamais il ne gracierait son fils. Il est donc revenu sur cette promesse qui a quand même assez surpris, je pense, aux États-Unis ici, même si on sentait le vent tourner. Comment est-ce que toi, tu l'as perçu à Paris ?
Oui, exactement. Je pense qu'elle a choqué pour une raison essentielle que tu donnais à l'instant, c'est-à-dire que vraiment, à de multiples reprises, de manière très publique dans ses déclarations, et très claire et très radicale, Joe Biden en avait fait une question de principe. Il fallait laisser la justice faire son travail. Il était convaincu de l'intégrité du système et il était convaincu de la nécessité de la part d'un président de respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc, il n'était pas question de s'immiscer et de gracier. Et évidemment, il en avait fait aussi un point de contraste avec Donald Trump qui, oui, en permanence dénonce la manipulation de la justice à des fins politiques. Or, là, ce qui choque, c'est qu'évidemment, il va totalement à l'encontre de ce principe qu'il avait lui-même posé. Et il évoque lui-même dans ce communiqué que tu évoquais, qui a été publié, pardon, comme prévu.
Et on t'excuse pour cette fin de maladie après ces mois éprouvants aux États-Unis.
Et donc il évoque lui-même dans le communiqué assez long dont les médias américains racontent qu'il l'a écrit lui-même, et quand on le lit ça semble assez crédible. Donc il évoque lui-même le fait que, dit-il, la politique a infecté le processus judiciaire, ouais, et a provoqué un déni de justice en défaveur de son fils. Et donc, voilà la raison pour laquelle ça choque autant, c'est que vraiment, il en avait fait lui-même un test, en quelque sorte, et un point de contraste entre son approche du rôle d'un président et l'approche de Donald Trump. Et donc, évidemment, ça choque et ça lui vaut, comme on pouvait s'y attendre, une avalanche de critiques aujourd'hui.
Effectivement, il avait eu cette formule à de nombreuses reprises, Joe Biden, ce « no one is above the law », personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde doit pouvoir être soumis à la justice. Son fils, donc, Hunter Biden, son fils cadet, le seul fils qui lui reste, hein, puisque Joe Biden, il a perdu son fils aîné, Beau Biden, d'un cancer, et donc on peut aussi se dire qu'il voulait à tout prix éviter que Hunter Biden retombe dans des addictions qui lui ont d'ailleurs valu, hein, en partie les choses qui lui sont reprochées. Il encourait jusqu'à 25 ans de prison pour avoir menti sur le formulaire nécessaire à l'achat d'une arme à feu et expliquait qu'il n'était addict à aucune substance alors qu'il prenait encore de la cocaïne, notamment à cette époque-là. Il risquait aussi 17 ans de prison pour manquement au paiement de ses impôts entre 2016 et 2019. Bon, il aurait été primo condamné, donc il n'aurait certainement pas servi autant d'années derrière les barreaux, mais pour autant une peine de prison ferme était probable. Cette éventuelles peines, ces éventuelles peines auraient dû être connues mi-décembre. Et donc là, effectivement, plus rien. Voilà, Hunter Biden est totalement blanchi. Le parapluie judiciaire est dressé devant lui. Donc, il ne pourra plus jamais être inquiété. Et ça, c'est pour les détails. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. J'ai vraiment eu ce sentiment quand j'ai lu ce communiqué envoyé par la Maison Blanche, quelque part de lire un petit peu du Donald Trump finalement, parce que on est habitué ici aux États-Unis à ce que quand quelqu'un nous dit la justice est politisée, les juges fédéraux s'attaquent à moi parce que je m'appelle X ou Y, ça normalement ça sort d'un communiqué de Donald Trump ou des équipes de Donald Trump. Et là, ce qui est absolument fou, c'est que c'est le président démocrate qui nous dit « On s'est attaqué à mon fils parce qu'il s'appelle Hunter Biden et pas Hunter Smith. » Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement surprenant. Et évidemment, il y a eu des réactions côté républicain, on s'en doute. Donald Trump et ses soutiens n'ont pas arrêté de taper dans les journées qui ont suivi sur les démocrates en expliquant que c'était bien la preuve que, puisque Joe Biden le reconnaissait, le système judiciaire fédéral était bien à la solde du gouvernement. Mais côté démocrate aussi, il y a eu des parlementaires. Le républicain Greg Lanzmann de l'Ohio, un démocrate de l'Ohio, j'ai relevé ça. Il a expliqué sur X que effectivement, en tant que père, il pouvait comprendre cette décision de Joe Biden, mais que en tant que personne, que parlementaire qui espère que les Américains aient foi en les services publics, c'est véritablement une mauvaise décision. Et il n'est pas le seul à avoir eu cet avis.
Oui, c'est clair. Écoute, je pense que ça, c'est évident quand tu lis ce communiqué dont on parlait tout à l'heure. C'est l'amour du père a eu raison de la conviction du président et des valeurs du président. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ceux qui n'ont pas déjà fait, qui nous écoutent, peuvent, et je les invite à le faire, voilà, vraiment à écouter cet épisode. Il faisait référence qu'on a enregistré ensemble il y a un an, où on racontait toute l'histoire et les traumatismes de Hunter Biden, et qui tombe pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, oui, pendant une période de 2 ou 3 ans, totalement au fond du trou. Il est drogué, il dépense des fortunes en drogue, en hôtel de luxe, en prostituée. Voilà, la hantise de Joe Biden, c'était que les ennuis judiciaires de son fils, une possible condamnation, le fasse replonger. Et c'est ça qu'il a voulu éviter à tout prix. Et tu as lu comme moi, dans les comptes rendus assez détaillés des médias américains, le fait que la réélection de Donald Trump, l'agressivité des propos de Trump dans sa volonté d'instrumentaliser la justice pour en faire un outil de vengeance, en quelque sorte, a sans doute contribué aussi évidemment, à rendre cette inquiétude de Joe Biden encore plus aiguë. Et il s'est dit qu'au fond, le combat n'était pas fair, quoi, et que son fils allait se retrouver comme la victime expiatoire et qu'il allait être massacré par un système judiciaire totalement aux mains de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il prend cette décision. Alors après, effectivement, la conséquence politique, tu l'as dit, et on la constate sans surprise et de manière spectaculaire, c'est qu'il fait un énorme cadeau politique à Trump, puisque effectivement, il va dans son sens en reconnaissant lui-même qu'on peut utiliser la justice à des fins politiques. Et puis, comme tu l'as vu, aussitôt, et ça non plus, ça n'est pas surprenant, Donald Trump et ses avocats s'en saisissent pour dire, justement, alors allons jusqu'au bout du raisonnement. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut abandonner toutes les poursuites contre Donald Trump et rendre nulle et non avenue sa condamnation, dont on a beaucoup parlé sur ce podcast, sa condamnation dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels.
Oui, et dont on attend d'ailleurs toujours les conclusions de ces arguments oraux, ces discussions qui devraient être soumises au juge Merchan pour savoir s'il reporte après le mandat de Donald Trump une éventuelle peine, l'énoncé de la peine, ou s'il annule tout simplement. Mais effectivement, il y a cette nouvelle requête citant effectivement cette grâce présidentielle de Donald Trump pour tenter de faire annuler encore plus rapidement les charges contre Donald Trump. Mais il y a aussi un élément qui m'a perturbé, ou pour pas dire choqué, c'est que finalement le raisonnement de Joe Biden, même si effectivement on part du principe qu'il veut protéger son fils, quand il explique quand même que la justice est politisée, je trouve qu'il fait l'impasse sur un point important, c'est que pour ce qui est de l'affaire de l'achat d'une arme à feu, Hunter Biden, il est condamné par un jury populaire. C'est-à-dire que ce sont des Américains qui l'ont jugé coupable et non pas un juge qui aurait pu être politisé. Donc, j'entendais beaucoup à la télévision ou dans les podcasts des démocrates se demander finalement si il fallait pas quelque part réexaminer la place, le sens qu'a la justice aux États-Unis, parce que beaucoup ont l'impression que là vraiment ce sont les fondements de l'indépendance de la justice fédérale dont Joe Biden était le garant qui sont piétiné.
Oui, d'autant que pour l'autre affaire, il n'a pas été condamné cette fois-ci, mais il a plaidé coupable lui-même, l'affaire de la fraude fiscale. Donc, dans un cas, comme tu le rappelais, il est condamné par un jury populaire. Et dans le deuxième cas, il plaide coupable, donc il reconnaît qu'il a pratiqué cette fraude fiscale pour plus d'1,5 million de dollars. Donc oui, ça pose évidemment question, et c'est, on voit bien l'embarras du camp démocrate, pour qui, toute chose égale par ailleurs, c'était quand même déjà très compliqué de gérer cette fin de règne de Joe Biden, qui est en train de disparaître un petit peu de la scène, avec un Donald Trump qui, sur ce front-là, mais sur tous les fronts, au fond, n'est pas encore investi, mais déjà en train de se comporter comme un président bis, en prenant des initiatives, notamment diplomatiques, assez spectaculaires. Donc, on a Joe Biden qui est à la fois effacé et, quand il ne l'est pas, revient dans le débat public pour une décision qui, évidemment, fait polémique à juste titre.
Oui, effectivement, tu parles de la présence de Donald Trump et il sera chez toi, d'ailleurs, à Paris samedi pour assister à la cérémonie de rouverture de Notre-Dame de Paris, la cathédrale. On ne sait pas si Joe Biden sera présent là au moment où on se parle. En ce mercredi 4 décembre, Joe Biden est en Angola. Première et seule et unique visite du président démocrate en Afrique. Il avait promis de s'y rendre. Il attend les dernières semaines de son mandat pour le faire. Et Joe Biden, qui sera représenté par sa femme, la première dame Jill Biden, à Paris samedi. Il y a d'autres aspects, je trouve, qui finalement continuent de ternir un petit peu cette fin de mandat. Si on oublie et si on laisse derrière nous effectivement cette défaite du camp démocrate à l'élection présidentielle, et d'ailleurs plus ça va, je trouve, plus j'ai l'impression que finalement on reproche tout autant, voire peut-être davantage à Joe Biden, tu sais, d'être sorti trop tard de cette course à la Maison-Blanche au profit de Kamala Harris. Mais ça, c'est un autre débat et on en a déjà parlé. Mais il y a, je trouve, quand même les questions de ces guerres au Moyen-Orient, en Ukraine. Joe Biden avait vraiment compter sur sa diplomatie pour essayer de se sortir, de sortir ses alliés de ces guerres. Alors, il a obtenu un cessez-le-feu au Liban, mais pas à Gaza. Donc, c'est une espèce de pis-aller, je trouve, pour Donald Trump, un petit cadeau de Thanksgiving qu'il s'était fait. Mais finalement, on est loin du compte. En Ukraine, alors, il a plutôt penché du côté de l'escalade, même si c'est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes, mais en autorisant Kiev et Volodymyr Zelensky à tirer des missiles longue portée américains, il y a quand même un risque d'aggravation du conflit. Donc, je trouve, et je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais que ces deux aspects, ces deux autres poches de politique internationale et de diplomatie de Joe Biden, Gaza et puis l'Ukraine, ça, c'est pas non plus pour embellir la fin de son mandat et lui permettre de partir avec les honneurs.
Non, parce que à quoi pense-t-il au fond? Il pense aussi à sa place dans l'histoire, mais effectivement au bilan qu'il va laisser. Alors, il a pris les décisions que tu citais sur l'Ukraine, s'y ajoute le fait, il y a quelques jours, qu'il rallonge, il remet un peu plus de 700 millions de dollars sur la table pour livrer des armements supplémentaires. Mais on sent bien qu'à moins de 50 jours de la fin de son mandat maintenant, évidemment, tout ça ne fera rien basculer. Il y a ce cessez-le-feu au Liban qui tient pour l'instant, mais dont on voit bien qu'il a déjà été un petit peu écorné et qui est très fragile.
Tant bien que mal.
La situation de Gaza n'a pas véritablement évolué, bien sûr. Maintenant, c'est un sujet sur lequel on voit Donald Trump est en train de s'impliquer de manière assez spectaculaire, puisqu'il a mis en demeure le Hamas de libérer les otages en particulier, faute de quoi il s'exposerait à une réplique qu'il a qualifiée de terrible président américain, aussitôt
Oui.
salué, du coup, le futur président américain, aussitôt salué évidemment par Benjamin Netanyahou. Donc voilà, il est en train de s'effacer, et c'est vrai que c'est une fin de mandat qui est assez douloureuse pour lui parce que. Un, tu le rappelais, effectivement, de plus en plus, on lui fait porter la responsabilité de la défaite. Deux, il transige sur ce qui était finalement, auprès de beaucoup d'Américains et auprès de beaucoup de démocrates, il écorne sa valeur de président qui incarnait une forme de rectitude et de décence morale, en quelque sorte, avec cette décision qui concerne son fils. Et puis, on a l'impression que sur les grands sujets internationaux maintenant, il pousse encore un petit peu quelques pions, ceux qui restent à sa disposition, mais au fond, il n'est déjà plus tant un acteur de premier plan que quelqu'un qui est en train de jouer les derniers coups dont il sait très bien qu'ils sont plus symboliques que réellement efficaces en réalité.
Il aura sauvé son fils. Voilà, il aura sauvé Hunter Biden en le graciant et en le protégeant de futures enquêtes contre lui. Alors, est-ce que finalement, sur ces derniers jours, ce ne serait pas ça le plus important pour Joe Biden? C'est un peu le sentiment que ça donne.
Oui, certainement pour lui. On a rappelé ce destin tragique hein, dans l'épisode qu'on avait consacré à Hunter Biden, cet accident terrible où il perd sa première femme, il perd sa petite fille, ses deux fils Hunter et Beau sont blessés. Il a 30 ans, il vient d'être élu sénateur et c'est comme ça qu'il démarre dans la vie politique. La disparition tragique des suites d'une longue maladie de son fils chéri, son fils aîné Beau Biden. En 2015, il a déjà perdu deux enfants et je pense que l'idée de voir un troisième de ses enfants derrière les barreaux ou ressombrer à nouveau dans les ravages de la drogue pour lui était juste insupportable et encore une fois, cette décision, c'est avant tout la décision d'un père.
Merci beaucoup Thierry.
Merci Benoît.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Washington Briefing. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.